Toutefois, je tiens de la bouche même d'une très proche parent de sa prétendue femme que la chose était positive. Je lui ai entendu jeter feu et flamme lors du mariage solennel du prince et menacé de se porter à des excès personnels. Cela pouvait donc demeurer un point contesté qui prenait la couleur inévitable de l'esprit du parti. Les uns soutenant avec obstination la réalité de ce mariage, tandis que les autres les niaient avec violence. Peut-être pourrait-on concilier cette contradiction en disant ce qu'elle, que l'on prétendait qu'il avait épousé Madame Fitzherbert. Étant catholique, cette circonstance rendait le mariage impossible aux yeux de la loi et parfaitement nul dans l'héritier de la couronne. Quoi qu'il en soit, j'ai souvent rencontré Madame Fitzherbert. Une société, sa voiture était aux armes du prince et sa livrée, la livrée du prince. Cette dame était beaucoup plus âgée que lui, aussi plus belle, aimable, de beaucoup de caractère et d'une fierté peu endurante. Ce qui la brillait souvent avec le prince et dominait entre eux, disait-on, les scènes de violence fort peu dignes d'un règne aussi élevé. C'est dans une dernière querelle de ce genre, lorsque Madame Fitzherbert avait assuré ton fait fermé à porte obstinément au prince que Monsieur P. E. l'adresse de saisir l'occasion favorable pour le faire consentir à épouser la princesse de Brunswick. Mais arrêtez-vous, ne dit l'empereur, vous allez beaucoup trop vite, vous passez once, m'intéresse davantage. Sous quel auspice le prince de Galles entra-t-il dans le monde? Quelle fut sa nuance politique, son attitude avec l'opposition? Si ce prince se présenta au public avec tous les avantages de la fille, du sud du corps et de l'esprit fut accueilli avec un enthousiasme universel. Mais il ne devint pas bientôt ses penchants et ses actes qui, dans le milieu du dernier siècle, semblaient enfermer le rôle obligé des grands seigneurs à la mode. Ce furent la fureur du jeu et ses inconvénients, les excès de la table et le reste, surtout entourage, en grande partie réprouvé par l'opinion. Alors, les coups généreux se resserreront, les espérances se tourneront à la portion intermédiaire qui partout constituait véritablement la nation et qui, en Angleterre, il faut en convenir, présente la population la plus morale de l'Europe. Désespéra de son avenir, c'était un adage reçu en Angleterre, répété surtout parmi le peuple, que le prince de Galles ne régénérait jamais les dessus sur le Bonaventure. Les sorciers, disait-on, devaient lui avoir prédit à lui-même l'opposition dans les bras de laquelle il s'était jeté. Ainsi que cela n'est que trop commun aux héritiers présomptifs de l'opposition, dont il était l'appui et les espérances, cherchant aveuglés ou autrement se tirer des vers quand on lui exposait tous ses griefs en répondant qui renouvellerait Henri V, que Henri V avait montré un bien mauvais sujet pour le prince de Galles. Mais qu'il était devenu le premier roi de la monarchie, est-il en conclusion que la prince de Galles serait un de leurs plus grands rois? Mais, disait l'empereur, est-ce qu'il a pris le parti de la révolution et défendre nos idées modernes? Non, sire, à mesure qu'il a écrit ses principes aillés chez nous en croisant. Voilà. Disons-le, le forcé. De s'éloigner de l'opposition. Comprenez la défense. Il se sait une alliance ostensible et remplissait les vides de sa vie en s'abandonnant au plaisir et à leur inconvénient. Il était constamment surchargé de dettes. Bien que le Parlement les eût déjà payés plusieurs fois, elle leur paraissait en fort et comprenait son caractère et sa popularité. Ce fut donc une de ces gênes extrêmes, combinée avec la querelle de Madame Fitzherbert, que M. Pitt s'empara du prince en offrant de faire acquitter encore une fois des dettes. Il voulait enfin se rapprocher tout à fait de son père et consentir à se marier. Il lui fallut en passer par tout ce qu'on voulut à la main de la princesse de Brunswick. Fut demandé et obtenu, mais dans la queue, elle devint de la négociation une femme célèbre que convoitait depuis longtemps du gouverneur. Le prince, trouvant la place vite si établie, on lui prêta à dire qu'elle y visait depuis 20 ans, car elle était encore beaucoup plus âgée que lui, circonstance qui était comme un goût particulier de la famille. On l'a remarqué aussi dans le plaisir de ses frères. Cette personne fut aussitôt nommée dans l'honneur de la future princesse de Galles. Elle fut même la chercher. Et la mena en Angleterre se feront sous de tels auspices et sous cette maligne influence que la nouvelle épouse mit la pied sur le sol britannique. Aussi assure-t-on que cette malheureuse princesse n'eut même pas la douceur de 24 heures complètes de cet instant privilégié. Si significativement appelée par les Anglais la lune de miel dès le lendemain. Les moqueries, les manques d'égards, les mépris demeureront sans partage. Tout ce qu'il y avait de généreux, de moral, en Angleterre prit parti pour elle et jeta les hauts cris, néanmoins le plus odieux, il faut en convenir, en retomba sur Lady Blanc, qui fut accusée d'avoir ensorcelé le prince. Elle devint l'exécration publique, et toutefois le prince, sur étant, n'avait même pas pu excuser les prestiges de son aveuglement. Car on prétendait que la suite d'un repas très gai, au milieu de ses joyeux compagnons, l'un d'eux fut conduit par la convention à dire qu'il connaissait la Madame de Merteuil de notre roman des liaisons dangereuses. Un grand nombre d'autres s'écrieront aussitôt qu'ils en connaissaient aussi une. Alors le prince, disait-on, proposa follement que chacun écrivit à part son secret. Tous les billets furent jetés dans une vase et ils en sortirent au teint de Lady Blanc. Qu'il y avait des convives, le prince lui-même n'ayant pas soupçonné une telle unanimité et n'imaginant pas être reconnu, avait aussi dit-on écrit ce nom. J'ai connu cette Lady Blanc, et il faut avouer que sa figure en tout son ensemble reposait en un peu son âge, qu'il était bien difficile de le deviner. Elle avait tous les charmes de la première jeunesse, reposait de toute la grâce, des meilleures manières. Et je dois dire que dans les cercles où je l'ai vue, elle exerçait même une certaine attraction de bienveillance, soit que les mœurs de cet étage disposées sont à l'indulgence, soit qu'en effet, elle ne mérita pas toutes les malédictions dont on l'accablait dans la roue.